Bonjour. Donc Magali Ravel, Académie de Paris, CASNAP. Je vais vous parler de l'orientation des élèves qui sont dans les classes d'accueil, donc plus particulièrement les élèves qui sont de niveau 3e, donc soit dans les classes d'accueil de collège, soit dans les classes d'accueil de LP, puisque les élèves de classe d'accueil LP sont identifiés 3e pour permettre l'orientation comme les élèves de 3e. Les élèves de classe d'accueil donc sont tous concernés au même titre que les autres élèves par l'orientation. Et pour nos élèves qui arrivent tardivement, avec un âge avancé, ils ont très peu de temps finalement pour construire leur parcours professionnel, enfin leur parcours d'orientation, et apprendre en même temps la langue française. Donc il y a comme une urgence. L'enseignant doit déterminer avec lui son projet professionnel et ceci doit passer par une découverte des métiers disponibles dans l'académie, et enfin des métiers et des formations disponibles dans l'académie. À Paris, beaucoup de nos élèves, donc je vous avais donné les chiffres hier, des classes d'accueil on en a 30, des classes de LP 17, plus 9 d'élèves peu scolarisés, donc ça fait quand même beaucoup d'élèves, et ces élèves-là sont en majorité orientés en lycée professionnel. Et vu la méconnaissance des formations, il était nécessaire de travailler sur ces questions-là. Beaucoup d'élèves étaient orientés avant en CAP ou BEP, donc des CAP réservés pour ces élèves-là, mais depuis la réforme du lycée professionnel, les orientations se font maintenant en bac professionnel, donc en 3 ans, d'où les réticences de certains enseignants de classe d'accueil lycée professionnel pour faire un dossier d'orientation à ces élèves, parce qu'il faut qu'ils aient un niveau de compétence en français suffisant quand même. Les professeurs de classe d'accueil de lycée professionnel se sont posés des questions et ont décidé de travailler ensemble pour créer un outil pour aider à cette orientation. Cet outil, le voilà. Donc il a été fait pendant 2 années par les professeurs de classe d'accueil de LP et des formateurs. Il a été distribué, il est gratuit, il a été envoyé à tous les CASNAV normalement. Donc si vous ne l'avez pas, on peut peut-être faire circuler une feuille pour que je puisse vous l'envoyer à tous, toutes les personnes qui ne l'ont pas reçu. Donc ce livret doit permettre à l'élève d'intégrer le système scolaire par la construction de son projet professionnel tout en apprenant la langue, mais vraiment par la construction de son projet professionnel. Cette publication doit permettre aux enseignants de prendre en compte d'abord la spécificité de ce public qui est différent, d'avoir une vision d'ensemble du processus d'orientation et d'anticiper finalement une meilleure organisation de leur enseignement tout au long de l'année pour planifier leur travail. Et cette brochure valide également les compétences du socle. Alors pour cela, je vous explique comment il est. Vous m'entendez bien ? Je ne sais pas si je suis. Donc du socle et du B2I aussi. Et ça favorise également quelques certifications comme le DELF ou le A2. Donc l'ouvrage est présenté sous forme de double page chaque fois. Sur le chapeau, vous avez les compétences, enfin le niveau CECRL. Donc selon le niveau de l'élève, A1, A2, B1, B2. La deuxième colonne, ce sont les compétences du socle. Donc on travaille quelles compétences du socle, la compétence 1, la maîtrise de la langue française par exemple, ou la compétence 7, l'autonomie et l'initiative. Et la troisième colonne, ça permet de, pas de valider parce que c'est un examen, mais de s'intéresser au diplôme, soit DELF, soit le CFG. Parce que les élèves passent aussi le CFG. Après, les objectifs de la séquence et la démarche pédagogique, c'est-à-dire l'organisation durant la séance, comment ça se passe, quels supports sont utilisés. Et après, c'est la fiche élève que l'élève peut travailler soit en autonomie, soit en groupe, soit de manière individuelle avec le professeur si c'est dans un module de soutien. Cette brochure, oui, est composé de 35 fiches. Donc il y a, c'est en 3 parties. Donc d'abord une première partie sur tout le repère du système scolaire français. Oui, on peut le faire tourner. Et Vincent, comme j'ai dit, vous mettez, on peut faire tourner une, faites tourner une feuille pour savoir qui ne l'a pas reçue, pour qu'on puisse l'envoyer, parce qu'on a imprimé 2000 exemplaires et il nous en reste beaucoup, beaucoup. Donc des repères scolaires, donc 9 fiches pour découvrir le lycée, découvrir le système scolaire. Il y a à la fin de cette première partie un planning avec les moments forts dans l'année, c'est-à-dire que il faut faire des mini-stages, il faut faire des dossiers, il ne faut pas oublier le module passe-pro. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Donc nous, les élèves, pour être orientés, il y a deux solutions. Soit ils passent par passe-pro, soit ils font la moulinette avec AFLNet. Deuxième partie, ce sont des outils pour aider les élèves à s'orienter. Et troisième partie, ce sont des fiches pour l'intégration dans une classe ordinaire. Voilà, donc je voulais vous présenter cette brochure qui est complètement utilisable directement dans vos classes.
Et elle a été extrêmement appréciée par les IENIO et les conseillers d'orientation.
Oui, elle a été faite en collaboration avec des COPSI également. Ce n'est pas un travail juste le professeur de la classe d'accueil. Il y avait des professeurs des classes ordinaires qui ont travaillé avec eux, des COPSI, les inspecteurs également. Et elle met en lien le CECRL, le SOCLE, et dans un but d'orienter l'élève afin qu'il puisse intégrer une classe ordinaire et une formation choisie, plus ou moins. Donc on a envoyé à tous les CASNAV il y a quelques mois. Certains colis lettres sont revenus. Donc c'est pour ça que je disais, faites tourner une feuille peut-être, comme ça, mettez l'adresse où nous devons envoyer la brochure et je vous la fais envoyer début janvier, il n'y a aucun souci. Hein. Les fiches élèves sont vraiment des mises en situation concrètes avec une tâche à accomplir. Et ça a été, c'est un long travail. Pendant 2 ans, ils ont travaillé pour réaliser toutes ces fiches.
Alors, par rapport à cette question de l'orientation et les outils proposés par Magali.
C'est pas tellement une question, c'est juste pour féliciter aussi l'initiative, parce que je trouve que c'est vraiment un outil vraiment intéressant. C'est vraiment l'apprentissage de la langue par rapport à un objectif. Qui est nécessaire aux élèves et je pense que c'est moi j'avais commencé bêtement à faire des photocopies pour les collègues sur place parce que j'en ai reçu un effectivement et, mais c'est vrai que si j'avais pu le diffuser à tous les collègues qui ont et même qui ont un élève isolé dans le lycée pro, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de connaître l'environnement dans lequel ils travaillent. C'est vraiment là-dessus qu'ils apprennent la langue, donc on est vraiment complètement dans le bon sens. Merci beaucoup.
En tout cas, le travail n'est pas terminé parce que les enseignants font cette année un site internet où vous trouverez toutes ces fiches. Alors, on est en train de le faire, donc je ne peux pas vous le présenter tout de suite. Mais sur le site, il y aura toutes les fiches, il y aura les séquences vidéo et des exemples plus concret en situation où le professeur utilise ces fiches-là. Donc ça sera en cours d'année. Je pense que je parle peut-être Régis Guyon qui a un carnet d'adresses mail à jour. Il pourra vous communiquer l'information afin que vous puissiez accéder à ces fiches. Sinon, juste un truc par rapport à l'orientation. L'Académie Paris négocie des bonus afin de faciliter l'orientation des élèves dans AFLNet. Donc soit ils passent par AFLNet avec un bonus qu'on négocie chaque année en fonction du MEF, en fait. Immédiatement, l'élève est identifié avec son MEF classe d'accueil.
Peut-être que tu peux développer techniquement, parce que je ne suis pas sûre que tous les collègues soient au point sur les subtilités du MEF.
Le cycle, je ne sais pas. Mais une classe, voilà, classe d'accueil. Donc la classe d'accueil de collège a un MEF spécifique, la classe d'accueil de lycée professionnel a un MEF spécifique, chaque classe a un MEF.
Ça veut dire que c'est un identifiant dans la base élève. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont fléchés. Ça veut dire qu'ils sont fléchés, effectivement, si tu veux. Ça ne signifie pas. Alors, dans certaines académies, là, je vais parler sous le contrôle de Guy, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'inscription dans une classe ordinaire. Ça signifie simplement qu'ils sont repérés comme élèves ayant besoin de FLE, FLS dans les bases élèves. Alors, je pense que là, vous allez nous être d'un grand secours.
Excusez-moi, je suis Florent Geb, principale du collège Louise Michel à Rive-de-Gier dans la Loire. Donc je ne sais pas si c'est égal pour toutes les académies, mais l'Académie de Lyon permet à ce qu'une classe puisse avoir plusieurs MEF. C'est vrai pour C'est vrai par exemple pour les classes européennes, mais c'est vrai pour les ULIS, c'est vrai pour... voilà. Donc c'est pas un problème.
Les pratiques sont extrêmement variables d'une académie à l'autre, hein. Ça n'est pas du tout uniforme sur le territoire.
Donc la première procédure, c'est AFENET, et la deuxième, PASS-PRO. Donc PASS-PRO, l'élève, donc des formations sont proposées avec la procédure PASS-PRO. L'élève doit rencontrer le chef d'établissement, il s'entretient avec lui, il doit obligatoirement écrire une lettre de motivation, et à la suite de son entretien, le chef d'établissement décide de lui accorder un énorme bonus pour qu'il puisse intégrer sa formation dans son établissement ou non. Donc c'est dans cette brochure, il y a des fiches pour préparer l'entretien, pour écrire une lettre de motivation, enfin... L'objectif au départ et le thème est indiqué sur la double page tout en haut. Et c'est pas seulement c'est l'orientation, mais c'est aussi se connaître soi-même pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. Et il y a des fiches là-dessus également. C'est pas que institutionnel, le système scolaire.
J'en profite pour dire que je fais circuler aussi 3 exemplaires de la revue Diversité. Donc on vous a... Normalement, on vous donnera dans la matinée ou je ne sais pas quand dans la journée l'article dont on vous parlait hier d'Emmanuel Huvert, qui est dans la troisième partie de l'ouvrage de ce numéro-là. Voilà. C'est un numéro qui est sorti en juillet, qui porte sur l'évaluation et il y a un certain nombre de choses qui portent sur les élèves dont on parle depuis hier. Et puis, il y a plein d'autres choses autour des questions d'évaluation, l'évaluation du système, l'évaluation des élèves, l'évaluation des enseignants, etc. etc. Donc, on essaie de toucher à tout. Philippe ?
Oui. Voilà. Bien. Alors, pour ma part, j'ai choisi d'aborder la question de l'orientation en termes de devenir de nos élèves nouvellement arrivés en classe ordinaire, puisque en sortir de nos dispositifs. Hein. Alors, le CASNAV de Strasbourg, vous l'avez bien compris, est en construction. Hein, donc, c'est pour cela aussi que Régis me demandait d'intervenir pour, je pense notamment à nos collègues de Lyon avec qui j'ai discuté hier soir, qui sont également dans cette phase de construction et qui pourront peut-être aussi gagner peut-être un peu de temps en repérant un peu ce... C'est bon là ? Oui ? Voilà, comme ça ? Voilà. Bien, alors, ce que je voulais donc dire, c'est que le CASNAV se positionne aussi dans cette orientation vers les classes ordinaires comme le coordonnateur du parcours d'apprentissage de la langue de ses élèves. Et ce que nous sommes, ce que je suis en quelque sorte rapidement amené à faire, c'est partager cette prise en charge des élèves. Je suis seul coordonnateur premier degré, et il s'agissait clairement pour moi d'impliquer rapidement un maximum le plus possible d'acteurs dans la prise en charge de ces élèves allophones pour faire, comme on disait, exister le dossier et sortir un petit peu de l'invocation finalement du CASNAV qui était une pratique un peu systématique. Ce que j'entends par invocation, c'est il existe un CASNAV, il a été créé, donc toutes les demandes vont être dirigées vers le CASNAV. Hein. Et donc là, on était vraiment en situation d'implosion, que ce soit IFIF, plus de 16 ans, collège, accompagnement, formation, tout est dirigé vers le CASNAV et très rapidement, c'est un risque pour nous, surtout quand on est seul, c'est de ne plus pouvoir répondre à cette demande. Donc d'où l'idée d'accompagner cette orientation, ce passage en classe ordinaire, en impliquant d'autres acteurs, n'ayant pas les compétences ni le temps pour tout faire. Donc ça, je crois que c'est un défi pour l'ensemble de nos CASNAV. Alors, la priorité pour nous a été d'accompagner les professeurs de classe ordinaire, j'ai déjà pu en parler un petit peu tout à l'heure, enfin il y a dans les journées précédentes, qui sont présents dans les réflexions pédagogiques menées par les CASNAV, mais qui demandent, qui sont souvent finalement démunis quand il s'agit de transposer les réflexions dans les situations concrètes d'apprentissage de la salle de classe. C'est-à-dire qu'on a donc essayé par là de transposer un petit peu cela sous la forme d'un dossier pédagogique pour les enseignants qui n'étaient pas encore formés, en leur communiquant des propositions facilement réutilisables pour pouvoir entrer en contact avec ses élèves et commencer une prise en charge. Alors ce dossier-là, je vais rapidement vous montrer, c'est constitué de... Donc, vous allez voir donc un premier exemple de fiches, il y en a 7 ou 8 qu'on réalise et qu'on réactualise en fonction des formations. Donc en attendant, donc vous allez rapidement bientôt pouvoir lire les premières lignes. Il s'agissait donc de mettre à disposition nos collègues qui sont soit dans les établissements ruraux isolés devant les ENA, soit les collègues des établissements qui accueillent déjà des dispositifs et qui n'ont pas encore été formés, de leur fournir un certain nombre d'informations rapides, simples, qui sont forcément réductrices, bien sûr, mais qui leur permettent en tout cas d'avoir une première connaissance du public qu'ils vont accueillir. Alors la première feuille qu'on a tout simplement élaborée, c'est qu'est-ce qu'un ENA ? Donc vous allez pouvoir en découvrir quelques lignes. On a choisi la première personne, c'est en formation qu'on a produit ce document. Le principe que je garde à l'esprit, c'est celui du casier. Hein. Nos collègues de classe ordinaire découvrent souvent dans le casier, tiens, j'ai un élève, ça se passe très souvent comme ça, j'ai un élève qui m'arrive, j'ouvre mon casier, j'ai déjà 1000 feuilles de documents. Donc qu'est-ce que je peux avoir qui me permet, sur un A4, hein, c'est le principe qu'on s'est fixé, sur un A4, de pouvoir parcourir un maximum d'informations, mais très simple, pour pouvoir déjà avoir des premiers éléments de connaissance sur ce public. Hein. Donc la première feuille s'appelle, de ce dossier s'appelle « Qu'est-ce qu'un élève nouvellement arrivé ?» C'est encore lancé une appellation. D'autres, je vais vous présenter les autres rapidement pour que vous ayez une idée plus complète. La deuxième s'appelle « Favoriser l'accueil d'élèves nouvellement arrivés en classe ordinaire » avec des principes généraux, là encore, on peut peut-être les agrandir aussi. C'est pas grave, hein, dans l'idée, donc je dis simplement quelques lignes, hein, placer plutôt l'élève au centre de la classe afin qu'il puisse voir ce que font ses camarades et qu'il ne se sente pas isolé. Proposer un tuteur à l'élève, voir la fiche outil, je suis tuteur d'un élève nouvellement arrivé. Donc vous allez voir une série, je vous le ferai suivre si ça vous intéresse, une série de petites généralités, de préconisations pour nos collègues. Donc la troisième feuille, être tuteur d'un élève nouvellement arrivé en France. Cette fois-ci, c'est un document qui s'adresse aux élèves, un document de tutorat, de contractualisation, vous le verrez aussi. Si je continue également, je vais simplement parcourir les titres. Donc, entrer dans une leçon, faciliter la compréhension du cours, faciliter l'acquisition du vocabulaire. Et puis, les documents que nos collègues attendent avant tout, comment je fais pour noter, donc l'adaptation, des devoirs pour les ENA. Donc, je vais quelques principes également d'aménagement possible, des généralités. Et également une feuille que nous avons déclinée, que nos collègues utilisent assez volontiers, notamment dans les disciplines non linguistiques. Je vais vous la présenter une, cette fois-ci, en agrandissant un petit peu le format. Hop, 150. Donc, on est parti sur trois niveaux d'évaluation. En référence au cadre européen, avec un niveau A1, A2, B1, qui permet aux collègues de disciplines non linguistiques d'intégrer l'apprentissage, l'enseignement de la langue, tout en, parallèlement, c'est la deuxième partie, en évaluant des compétences disciplinaires. Donc ce sont des documents, des feuilles d'évaluation qui sont évolutives, les élèves, c'est ce qu'on indique en remarques liminaires, passent du A1 au A2 et au B1, ce qui permet d'avoir une première entrée, notamment lors des immersions en classe ordinaire. On en reparlera tout à l'heure, parce que ça c'est un point également que nos collègues de classe ordinaire, sur lequel ils ont été interpellés. D'une part, je ne sais pas comment faire, je ne connais pas ce public, je ne sais pas comment adapter mes devoirs, et l'autre point sensible à mon sens, c'est d'accompagner également ces immersions en classe ordinaire. Il ne suffit pas de dire, bien sûr, les collègues sont en classe ordinaire, ils suivent, ils sont dans un bain linguistique, mais qu'est-ce qui se passe dans ce bain linguistique? Qu'est-ce qu'on peut proposer et aux élèves et aux professeurs qui vont les accueillir dans leur classe ordinaire? Et là, un document également a été réalisé, si Néfissa veut bien nous en dire un petit mot, hein, puisque tu as, je ne sais pas si tu peux lui passer un micro. Donc un document que tu as intitulé, un document d'observation active aussi, si tu peux en parler un petit peu, hein, donc te présenter aussi.
Oui, peut-être. Donc dans la première phase d'accueil, on a un positionnement sur 3 semaines, et puis on a travaillé question d'intégration de manière un petit peu différente cette année, parce qu'on s'est rendu compte que les intégrations par bloc disciplinaire n'étaient pas très satisfaisantes dans un premier temps. C'était exposer l'élève à trop de responsabilités, trop de pression, et puis pour les enseignants, pas assez de recul pour une intégration positive. Donc on a mis au point une intégration très très progressive, à raison d'une ou deux heures par semaine, et qu'on a appelé de l'observation active. Donc les élèves entrent en classe, enfin on les prépare en classe d'accueil pour ces premiers contacts, en faisant des jeux de rôle pour petit à petit qu'ils savent comment se présenter, comment aborder pour la première fois le professeur, attendre que le professeur lui donne une place. Tout ça, c'est des petites choses et des petits détails qui font toute leur importance, car l'élève est en situation de stress intense quand il arrive dans cette classe ordinaire. Donc c'est tout un travail de préparation où l'élève en observation active a des objectifs très très simples. Donc cette présentation d'abord vers le professeur, le fait de dire bonjour, le fait de dire où est-ce que je peux m'asseoir, etc. Et puis, il a quelques objectifs durant cette heure de cours. C'est de l'observation. Il va noter des mots. Il va prendre la trace écrite au tableau, sans obligation de comprendre le cours, de suivre le cours. Et puis, il va essayer de donner un titre à ce cours-là. Et puis, il va peut-être noter quelques noms d'élèves, le nom du professeur, bien repérer la salle, le créneau, enfin, etc. Et puis, juste une petite auto-évaluation. Il va essayer de dire de quel pourcentage il comprend de ce cours-là. Ça peut être, on ne le met pas en position de tout comprendre. Il peut mettre 0%, 10%, 20%. Et on fait un retour sur ses observations actives. Il remplit donc sa fiche. Et il fait juste signer par le professeur à la fin du cours. Ça nous permet aussi le suivi de cette introduction dans la classe. Est-ce qu'il est bien, il a bien respecté cet emploi du temps ? Donc, on a mis au point une fiche d'observation active à l'adresse de l'élève pour qu'il comprenne sa mission, à l'adresse des professeurs pour qu'ils comprennent leur mission à eux aussi, et à l'adresse de tout l'établissement pour qu'ils comprennent que ce dispositif va concerner tout le monde. Voilà.
Oui, merci. Voilà, j'ai pas le document ici, j'aurais pu vous le présenter, mais je le mettrai dans le pack également, si ça vous intéresse. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un versant également qui est pour le professeur, hein, parce que cette immersion de fait, finalement, dans les classes, à l'observation, c'est un élève qui est là, qui sait pas trop ce qui se passe, ce qu'il doit faire, et un professeur qui sait pas trop non plus peut-être quoi faire hein, durant ses premiers temps d'immersion.
Donc, pour dire qu'en fait, le retour est très très positif. On le fait sur le premier trimestre. Et donc ils sont très vite introduits dans les classes d'accueil et il n'y a pas ce fossé puisque il n'a aucun devoir d'évaluation, et le professeur est aussi déresponsabilisé et l'accueil de la sorte de manière beaucoup plus conviviale. Et puis on peut changer au cours du trimestre les cours qui vont être observés. Ça peut être sur deux semaines un cours de français, un cours de SVT, les trois semaines après un cours d'histoire géo, un cours, et comme ça il fait le tour des cours de la classe, et au deuxième trimestre on réfléchit s'il est capable de faire une intégration un petit peu plus importante. Mmh. Et on module en fonction.
Voilà. Donc non, mais il y a peut-être des...
Non, c'est une question.
Non, j'ai pas fini. Non. Donc le premier axe, donc la première chose, donc c'est la partie donc outiller les collègues de classe ordinaire. Vous avez quelques exemples de fiches, hein, des conseils très concrets. Accompagner l'immersion en classe ordinaire aussi. Nefissa donc a évoqué cette fiche outil. De la même manière, je rencontrerai après-demain jeudi matin les IAIPR de notre académie pour essayer de solliciter les collègues d'art plastique, de musique et de PS vers lesquels les élèves sont spontanément orientés comme étant des collègues facilitant l'immersion, pas seulement pour les ENA, mais également en SECPA, en Ulysse, et essayer de construire avec eux quelque chose aussi, de manière à ce que l'immersion dans ces disciplines-là puisse aussi être active. Hein. Donc c'est quelque chose qui se construit. Ce sont des disciplines qui, effectivement, de fait, on leur dit, voilà, tu peux suivre les cours d'art plastique, de musique, de sport, mais qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que le professeur peut y faire? C'est là-dessus qu'on va travailler également. Hein. Donc toujours, voilà, une des nos priorités, donc l'accompagnement des collègues non formés, le travail sur l'immersion en classe ordinaire, et donc l'implication de ces disciplines également non linguistiques dans notre travail. Hein. Alors, autre chose encore dans ce souci qu'on a de partager cette prise en charge et cette nécessité que le CASNA va le faire, hein, de par sa situation, nous avons également mis en place, j'attends juste l'ordinateur se réveille, j'en parlais hier, nous avons redéployé des dispositifs qui étaient parfois doubles dans certains collèges, nous avions parfois deux CLA dans certains établissements, il y a eu un redéploiement vers les établissements du centre-ville. C'était une volonté de notre inspecteur d'académie il y a 2 ans, c'est-à-dire sortir de l'association classe d'accueil ZEP. Et nous avons donc cette année-ci 2 établissements supplémentaires au centre-ville qui ont accueilli ces dispositifs avec des coordonnateurs, la configuration j'en ai déjà parlé. C'est posé aussi la question maintenant de la mise en place de ces dispositifs, mis à part la formation attendue ou convenue qu'on peut attendre. Il a fallu également accompagner ces tuteurs dans leur travail, ces coordonnateurs, pardon. Et nous avons donc mis en place également un système de tutorat pour que le coordonnateur puisse être accompagné dans la mise en place de ce dispositif dans l'établissement et pour que les collègues de l'établissement puissent aussi avoir une personne ressource sur place. Donc là, c'est encore dans cette idée-là d'ouvrir un réseau, d'impliquer davantage de personnes et donc de permettre aussi conséquemment au CASNAV de se recentrer sur d'autres activités. Alors si Nefissa pouvait prendre peut-être encore 1 minute pour présenter ce tutorat-là, puisque tu es toi-même tutrice de 2 nouveaux coordonnateurs, et indiquer peut-être en quelques mots en quoi il consiste. poste et comment il se met en place durant l'année ?
Voilà, très rapidement, j'ai trouvé l'idée excellente parce que c'est vrai que quand on prend en charge pour la première fois une classe d'accueil et on est quand même assez dépourvu et on se pose tellement de questions et l'institution ne peut pas répondre à ces questions. Donc le fait de devenir tutrice de deux professeurs nouvellement affectés en classe d'accueil, ça m'a vraiment plu. Et ça permet d'avoir vraiment une fonction officielle pour accompagner le nouveau professeur dans sa nouvelle mission et pour pouvoir dès en amont, avant même le commencement avant même l'ouverture de la classe, discuter avec l'administration pour mettre au point les emplois du temps de manière plus rationnelle afin de pouvoir organiser ce temps d'intégration dans l'école, conseiller sur la fonction du professeur principal dans ces classes d'accueil, parce que c'est toujours plein de questions. Comment négocier l'intégration en classe ordinaire. Donc toutes ces grosses questions qui sont insolubles pour un nouveau professeur, on arrive un peu en qualité d'expert pour proposer des solutions en fonction de la situation de l'établissement, en fonction du public, en fonction des données de l'administration, de la bonne volonté. Et puis on essaye de jouer au mieux et de conseiller au mieux. Et c'est assez positif parce que parfois... pour des nouvelles implantations, il y a énormément de réticences et donc ça permet en douceur, avec diplomatie, de lever certaines difficultés et de répondre très très vite aux questionnements de ces nouveaux professeurs.
Alors de façon concrète, donc c'est un accompagnement qui se fait dans la durée jusqu'au mois de juin et on utilise pour cela un document qui est le document d'accompagnement des contractuels qui permet, on a modifié un petit peu l'intitulé, donc qui permet assez facilement de mettre en place ce tutorat. Hein. Voilà. Je vais me dépêcher. Donc rapidement encore. Tout à fait. Alors peut-être encore deux points. Je m'arrête. Hein. Le premier, donc il s'agissait également pour nous, donc de cet accompagnement d'associer les disciplines non linguistiques. Nous avons un groupe d'action formation qui associe les collègues de mathématiques, de physique chimie, pour qu'ils puissent eux aussi mettre le pied à l'étrier, outiller nos collègues. Voilà une chose que je voulais dire et ouvrir surtout nos interventions aux partenaires également extérieurs, aux COP, assistantes sociales. Voilà, mettre en place ce travail de partenariat. La formation initiale, j'en ai parlé déjà également hier, la formation des personnels de direction est également prête et nous développons des fils également, toujours dans le même souci de mettre en place que cette orientation vers la classe ordinaire ne relève pas du seul CASNAV mais soit bien pris en charge par le plus de monde possible. Hein. Voilà. Donc.
Oui, j'aurais des remarques et puis peut-être aussi pour introduire une discussion autour des questions que je trouve tout à fait importantes qui viennent d'être soulevées. Je suis tout à fait sensible à l'effort de diplomatie et d'engagement vers les enseignants de classe ordinaire et tout ce qui va dans le sens de mettre de l'huile dans les rouages me paraît extrêmement important. Mais sur le fond du problème, j'ai un point de vue à la fois scientifique et expérientiel extrêmement différent. C'est-à-dire que j'entends bien que pour un enfant nouvellement arrivé, se trouver dans une classe, c'est un stress. Voire c'est un stress intense, l'expression a été employée. Mais on ne peut pas l'empêcher, ce stress. Comme un enfant qui va à l'école maternelle, on ne peut pas l'empêcher, le stress de la séparation avec la famille. Alors qu'il faille l'accompagner, ça j'en suis bien convaincue et je comprends et je loue tout à fait les efforts qui sont faits. Mais je pense qu'on ne mesure pas, ou en tout cas on ne le mesure pas assez, le stress que ressent un enfant qui n'est d'aucun groupe d'appartenance dans une classe ordinaire. Les élèves avec lesquels j'ai mené mes recherches disent que ce qui leur est le plus difficile à vivre, c'est justement le décloisonnement, l'immersion partielle en classe ordinaire. Ce n'est pas de se retrouver dans une classe ordinaire à temps relativement complet, avec son groupe d'appartenance, avec ses copains, avec l'appropriation des règles de la vie quotidienne dans sa classe. Ça, c'est pas ça qui crée du stress. Ça en crée, évidemment, mais comme pour tous les enfants, peut-être davantage parce qu'il y a la barrière de la langue. Mais ce que disent les enfants, c'est pas ça. Ils disent, je vais en cours de sport, je connais personne. Personne me prend dans l'équipe. Je vais en SVT, alors là, je suis derrière une paillasse, je comprends pas. Et puis, j'ai pas de copains, j'ai personne à qui me raccrocher. Le prof, il me dit, oui, tu fais ça, puis après, il me laisse. Je pense qu'on se trompe sur... je pense qu'on se projette à la place, dans notre imaginaire, à la place d'un enfant dans une situation extrêmement stressante, ce que serait une situation extrêmement stressante d'être dans une classe ordinaire où on comprend rien. Mais dans n'importe quelle classe, c'est pareil. Sauf que là, on introduit chez l'enfant de la dérégulation des relations, une mauvaise appropriation du fonctionnement. Vous avez tous vu des jeunes enfants ou des enfants plus âgés trouver très rapidement une ou deux copines, un ou deux copains qui vont leur servir de passeurs, pas forcément institutionnalisés, mais qui leur servent de passeurs, qui leur montrent où sont les toilettes, qui les emmènent, qui voilà. Et ça, ça permet de diminuer, mais de manière extrêmement importante, ce stress. Et je pense qu'on se trompe là où on veut, essayer d'accompagner au mieux. Finalement, on génère un autre type de stress qui est aussi un stress d'exclusion, extrêmement important et pas si productif que ça. Donc, je pense qu'il faut repenser ces éléments-là de manière absolument importante. Il faut renverser la vapeur. Alors, je sais bien qu'il n'est pas simple du tout, et on en parlera tout à l'heure quand il sera question de formation, il n'est pas simple du tout de comprendre que des enseignants peu sensibilisés à cela, ou des chefs d'établissement peu sensibilisés à cela, comprennent que c'est dans l'ordre des choses et que c'est quand même comme ça que ça va mieux pour les enfants. Moi, je suis toujours surprise d'entendre ça. Alors, je comprends à quoi ça correspond, je comprends vraiment à quoi ça veut répondre, mais je pense que, pour le coup, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, je le dis de manière brutale, je suis prête à accueillir des remarques, des critiques et des points de vue complètement différents, mais sincèrement, arrêtons de penser que le plus grand stress qu'on peut infliger à un enfant, c'est d'être dans une classe ordinaire avec des enfants qui deviennent ses copains et avec des enseignants qui font avec lui, qui l'amènent à se sentir chez lui dans l'école ou dans le collège. Et je pense que peut-être là, on pourra commencer un autre type de travail et un autre type d'accompagnement. Mais je suis directe, je n'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, je ne prends pas beaucoup de précautions oratoires pour annoncer mon propos. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête avec ce sentiment-là, parce que ça ne correspond pas du tout au ressenti des élèves.
Alors, peut-être pour compléter le propos de Cécile, en ce qui concerne l'intégration par bloc disciplinaire, nous n'acceptons pas que les blocs disciplinaires soient morcelés, parce que tout simplement, ça interdit, je veux dire, même un élève en situation de réussite ne s'en sortirait pas s'il vient une fois comme ça par hasard en pointillé. Donc nous en faisons un petit peu une question de doctrine, c'est-à-dire où on est dans la discipline et on est pleinement dans la discipline et on participe à l'ensemble des tâches moyennant un certain nombre d'accommodements, où on n'y va pas, quoi. Alors, autre chose peut-être, je comprends évidemment que l'on vise le bien-être des élèves et puis qu'on aménage leur parcours. En même temps, dans l'institution, nous visons, nous, alors je parle peut-être aussi sous le contrôle de Guy Cherki de ce point de vue, mais ce que nous visons, c'est, je vais le dire de façon volontairement provocatrice, c'est moins l'immersion des élèves que l'outillage du professeur sur la question de la langue, de façon à ce qu'il soit outillé pour tous les élèves et qu'il produise de l'étayage pour tous les élèves qui lui sont confiés. Dire que l'élève qui arrive soit une occasion d'amélioration de la qualité générale des enseignements et des apprentissages pour l'ensemble de la classe. Et c'est un formidable levier. Ça n'est pas une croix, ça n'est pas un chemin pavé de difficultés, c'est un formidable levier. Donc je tiens à le rappeler publiquement de façon très, très forte. Voilà.
Je continue et après je laisse les gens répondre. Je continue sur la logique de cet accompagnement du professionnel à accueillir dans sa classe. Je vais le dire comme ça. les enseignants de CLIN, enfin CLIN, CLA et autres, enfin, les enseignants de FLS, quand on est sur cette logique d'immersion progressive, hyper accompagnée, souvent ça s'apparente à demander l'aumône à ses collègues. Je le dis comme ça, c'est-à-dire que l'enseignant de FLS va voir les profs plutôt sympas avec lesquels il bosse en disant « Dis donc, tu voudrais pas me le prendre ?» Voilà, on demande l'aumône pour que l'enfant soit accueilli dans la classe ordinaire, plutôt par les collègues sympas que par les autres, quand bien même ce ne serait pas forcément ceux pour lesquels la discipline serait la plus porteuse. Je pense qu'il faut, là encore, changer le braquet. Il faut vraiment regarder les choses autrement. Nous n'avons pas à demander l'aumône pour faire venir un enfant dans une classe ordinaire. On devrait inverser les choses, c'est-à-dire que l'enfant, sa classe de référence, c'est sa classe ordinaire, et il bénéficie d'un dispositif particulier à géométrie variable, à la fois en quantité, en qualité, enfin, est-ce que c'est du FLE, du FLS, c'est beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps. Mais il faut arrêter de penser que les collègues de classe ordinaire qui accueillent des nouveaux arrivants dans leur classe font œuvre de charité. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes.
Oui, je voulais rappeler l'existence, parce qu'on n'en parle pas là, des fiches EduSchool qui ont été faites, je crois, après 2 ans de travail collectif. Il y a 4 documents. Qui je pensais faisait le tour de la question, à savoir accueil et inclusion, à savoir proposition didactique et pédagogique, à savoir quelques clés pour l'enseignement du français, et puis donc un document sur l'évaluation avec un livret qui croise effectivement CECRL et DELF. Je pensais que ces documents avaient l'aval de tous. Nous, en tout cas, nous les utilisons beaucoup et nous en faisons maintenant le sens. Voilà. Par rapport à ce que vous dites là, je crois que, enfin, c'est presque une évidence et il me semble que la crise nous y aide, paradoxalement. Parce que, en tout cas, dans notre académie, l'absence de moyens réactifs face à la montée des effectifs fait que les enfants et les jeunes sont intégrés dans les classes ordinaires de fait et que donc on est obligé de travailler à partir de cette situation. Voilà ce que je voulais dire.
Qui, encore une fois, est un formidable moyen d'améliorer les choses pour tout le monde.
Je voulais partager... Excusez-moi pour ma voix, je voulais partager un petit peu mon expérience en immersion en école américaine où j'étais de fait moi-même immergée dans un milieu inconnu et les élèves dans une langue inconnue puisque j'avais la charge d'enseigner le programme américain en français, totalement en français, à des petits-enfants de 5 ans. Et je me suis jamais posé la question de est-ce qu'ils comprenaient ou est-ce qu'ils comprenaient pas. Je me suis toujours donné les moyens et que avec des moyens visuels. Hein. Et c'est-à-dire que je pensais ma séquence, mes séances, avant, et j'avais toujours des supports visuels à une période où l'ordinateur n'était pas aussi répandu que celui qu'à l'heure actuelle. Donc, tout ça pour dire que nos collègues de classe ordinaire, sincèrement, ils ne se posent pas beaucoup de questions, parce que 5 minutes par jour, ça ne serait quand même pas, ne serait-ce que 5 minutes, quoi. Ça serait déjà un bonheur. Après, deuxième chose... Moi, j'ai un peu l'impression d'être l'extraterrestre dans cette réunion. Je travaille, excusez-moi, en élémentaire, je ne sais pas si vous l'aviez compris. Et puis, je suis dans le Var, et en tout cas, en élémentaire dans le Var, nous, les élèves sont dans les classes ordinaires, de fait, et c'est moi qui fais l'aumône à mes collègues pour les sortir de la classe, parce qu'ils vont rater les maths ou ils vont rater le français. Voilà. Et moi, je vis exactement le contraire. Et parfois même, ça m'arrive d'avoir des enseignants qui me disent « Oh ben non, Sylvie, là, ils n'ont plus besoin de toi parce que ils jouent dans ta classe. Alors là, maintenant, faut qu'ils apprennent des choses sérieuses, quoi. »
Je vais juste répondre sur les deux éléments dont vous parlez. Tout à l'heure, on a aussi entendu le mot bilinguistique. Alors, ce n'est pas spécialement vous qui l'avez dit, hein, c'est quelque chose d'assez général. Moi, je ne dis pas que l'intérêt de mettre... ce n'est pas du tout en réponse à ça, mais c'est par rapport à ce que vous disiez sur l'immersion. Mettre un enfant nouvellement arrivé dans la classe, le but, ce n'est pas qu'il soit dans un bain linguistique. Hein. C'est qu'il pratique la langue française en interaction scolaire, en contexte, et la langue aussi de communication dans ses relations, hein, et que cette langue, à certains moments, elle est didactisée. Et elle doit être didactisée spécifiquement pour lui par rapport à la situation qui est la sienne. Donc il ne s'agit pas de dire on les met dans la classe ordinaire et puis hop, terminé, personne ne s'en occupe, surtout pas l'enseignant de classe ordinaire qui continue à faire comme si il n'était pas là et qu'il faisait comme tout le monde. Donc ça, c'était la première question, parce que je me suis dit que peut-être j'étais pas assez précise là-dessus et qu'on pouvait laisser penser qu'il suffisait de mettre des enfants avec d'autres enfants qui parlent français pour qu'ils apprennent. Non, surtout pas en contexte scolaire, parce qu'on sait très bien qu'en classe, par exemple, les enfants sont très très peu amenés à parler. On les sollicite peu sur leur expression, par exemple. Bon. Deuxième point sur ce que vous dites, c'est vrai que je rejoins ce que vous dites ici, de ma propre expérience là, de professeur des écoles auprès des nouveaux arrivants, et où je disais, au début, les enfants m'accueillaient, ils avaient le cahier, ils regardaient l'heure, ils disaient « dis donc, t'es en retard ». Et à la fin, quand j'arrivais, à la fin, c'est-à-dire là où j'identifiais qu'ils n'avaient plus besoin de moi, c'est quand en me voyant, ils relevaient le tas. Oh, bon, voilà. J'ai plus envie, j'ai plus besoin, ça m'agace, je ne veux plus sortir, même si effectivement, ce que j'y apprends est probablement nécessaire ou intéressant, mais je n'ai plus envie. Donc, je pense que là, je rejoins cette expérience-là de manière très importante. Alors, là où nous avons, nous, à faire attention, c'est effectivement à savoir montrer et évaluer le moment où l'attente de l'enfant et l'attente de l'enseignant de classe ordinaire correspond au moment où nous aussi on dit il n'a plus besoin, hein, pour que ce soit pas prématuré, parce que justement ils auraient, et l'enfant et l'enseignant, une représentation de ce que seraient que les apprentissages sérieux, là où les chances sérieuses commencent, en oubliant que peut-être la manière dont on didactise notamment l'enseignement du français, est adapté à la situation de l'enfant, même si ça ne paraît pas sérieux comme apprentissage. Bon, là, il y a, je dirais, une formation à apporter à nos collègues et un travail à faire avec les enfants et les familles aussi, hein, pour dire effectivement, ok, on joue, ok, on apprend des chansons, ok, on parle, mais tout ça, on en a besoin pour apprendre à parler aussi la langue de manière plus adaptée. Je crois que vous aviez une question.
Pas une question, juste une remarque par rapport à ce que vous disiez sur il faut arrêter de demander l'aumône aux collègues. Effectivement, lorsque j'étais encore en classe, j'ai appliqué ça une année avec une collègue en art plastique qui voulait absolument pas de cet élève-là. Et j'ai dit, t'as pas le choix, il est inscrit dans cette classe-là, tu le prends. Elle a laissé de côté. Elle ne s'en est pas occupée de l'année. Au premier trimestre, c'était non noté. Et puis ensuite, c'était... au niveau des notes, c'était 10, je pense. Et l'élève était très mal à l'aise dans la classe. Il m'a dit... c'est un élève qui aimait particulièrement les arts plastiques en plus. Et puis qui me disait... la prof ne s'occupe pas de moi, quoi. Donc voilà, ça c'est... L'autre versant, quoi.
Alors, Régis, tu me laisses juste réagir au propos de Bettina, parce qu'il est quand même important. Ce que nous avons essayé de dire hier, c'est que pour sortir du territoire de la charité, il est bon de professionnaliser l'ensemble des acteurs. Et moi, je souhaite rappeler, hein, comme on disait hier, la politique, ça commence avec la politique d'établissement, que le soutien et le fait que le chef d'établissement mette toute son autorité dans la balance pour piloter le dispositif d'inclusion est absolument une condition sine qua non de réussite. C'est la première condition sine qua non. Si l'enseignant est livré de façon militante à la bienveillance, à l'implication, à la bonne volonté des uns et des autres, on ne s'en sortira jamais. Donc là, c'est vraiment un appel à la professionnalisation générale de l'ensemble des acteurs du système. Mais n'oublions pas les chefs d'établissement qui jouent un rôle véritablement clé et fondamental dans le pilotage du dispositif.
Oui. Alors, c'est vrai que là, dans l'article qui va passer, vous aurez l'occasion de le lire, quand on montre qu'effectivement, il y a des situations structurelles qui sont potentiellement, qui vont générer potentiellement de la ségrégation ou de l'inclusion. Mais de la même manière que même dans un dispositif très exclusif ou très ségrégatif, la bonne volonté ou la manière dont les enseignants font les choses peuvent tout à fait atténuer cette dimension d'exclusion parce que les relations avec les autres collègues sont tout à fait intéressantes et puis même dans la prise en charge de l'enfant, c'est tout à fait le cas. Le fait de décréter qu'un dispositif est inclusif ne suffit pas à le rendre inclusif. C'est pas parce qu'on dit il est inclusif qu'il va l'être. Et c'est effectivement la question de la professionnalité des acteurs qui est en jeu pour qu'effectivement ces éléments-là ne se fassent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met un élève en classe ordinaire et que de fait, à l'intérieur de cette classe, il est exclu, c'est potentiellement aussi ségrégatif qu'un dispositif qui apparemment le serait moins, mais où en tout cas les personnes seraient beaucoup plus accueillantes et prêtes à être là et à adapter aussi leur pédagogie. Je crois qu'il y avait une question, une remarque.
Oui, je me dépêche parce que je vois que la collègue elle essaye de récupérer le micro. Je voudrais poser une petite question sur vos pratiques ou vos préconisations pour les langues vivantes. Comment est-ce que vous conseillez d'intégrer? Comment est-ce que vous intégrez? Parce que c'est parfois difficile de faire valoir leur langue maternelle comme langue vivante, parce que c'est une nécessité pour leur orientation, et parce que parfois on est un peu piégé par l'offre relativement limitée de certains secteurs géographiques. Pour moi, c'est un peu encore compliqué des fois de sortir de l'anglais et de l'espagnol, ou de ne pas en sortir.
Alors, question complexe, et je pense que... On essaie de maintenir si la langue de scolarisation antérieure ou la langue familiale ou la langue maternelle est une langue de culture enseignée au CNED, on peut tout à fait inscrire tranquillement, pour peu qu'il en ait besoin d'ailleurs. Il se peut quelquefois que son niveau soit tel que l'inscription au CNED ne soit pas forcément utile, ça dépend des parcours. Mais on peut tout à fait l'inscrire au CNED si l'offre n'existe pas dans l'établissement, ce qui est quasiment le cas général. Bon. C'est gratuit pour les moins de 16 ans. Ce sont les DAZN qui accordent ces inscriptions. Donc il faut les demander vigoureusement, ne pas se laisser impressionner. C'est de droit. La scolarité au CNED est une scolarité qui donne lieu à notes, bulletins et appréciations. Donc c'est tout à fait intéressant. Ensuite, on peut... pour les élèves qui font des parcours jusqu'au lycée général, la situation est relativement bonne parce que le bac français est celui qui propose le plus de langues vivantes en présentation pour les candidats. Donc il y a toujours possibilité, moyennant un petit cadrage, qu'un élève puisse présenter au baccalauréat. Alors, s'il est au baccalauréat, j'ai envie de dire, on a déjà quand même beaucoup, beaucoup gagné. La situation est beaucoup plus inquiétante dans l'enseignement professionnel avec le passage quasiment généralisé en contrôle en cours de formation qui fait par exemple qu'autrefois, il y a quelques années encore, les turcophones ou les arabophones pouvaient choisir ces langues dans les diplômes. Alors je pars sous le contrôle de Pascal qui connaît bien cette configuration. On pouvait choisir les langues dans les diplômes professionnels, ça n'est plus le cas puisque tout est en contrôle en cours de formation et que les contrôles en cours de formation ne sont installés techniquement que sur les langues effectivement enseignées dans l'établissement. Et ça va même assez loin, vous avez même des transferts un peu hardis entre l'italien ou l'espagnol. On est, pour le cas du lycée professionnel, dans un appauvrissement véritablement de... la diversité ou l'accueil de la diversité linguistique aux évaluations certificatives. Alors, encore une fois, ça n'est pas le cas en lycée général. Peut-être aussi d'autres précisions techniques, si vous voulez.
Non, en fait, moi, c'était pas du tout par rapport à ça. C'était par rapport à ce que Mme Goy disait tout à l'heure. Je voulais y revenir. Vous avez parlé du stress qu'on voulait enlever aux élèves avec un passeur, avec des enseignants en classe ordinaire qui sont bien formés. Moi, je trouve ça très beau. Ça m'étonne que personne n'ait vraiment réagi. Je trouve ça très, très beau dans l'absolu, mais il me semble qu'il y a un principe de réalité qui est... Déjà, si on est dans une classe idéale, avec effectivement plein d'élèves qui suivent derrière, je pense que ça se passe bien. Pour enseigner dans un collège de ZEP avec plein d'autres profils, il y a aussi des Ulysses, il y a aussi plein de choses. Les enseignants sont déjà débordés et c'est pas un manque de formation parce qu'ils sont tous formés parce qu'il y a une classe depuis longtemps. C'est pas un manque de volonté, mais c'est tout simplement très difficile. Donc c'est la première chose et je pense que c'est quand même aussi modulable en fonction de l'âge des élèves. J'ai enseigné en clean et en classe et en clean, le discours que vous portez pour moi est tout à fait pertinent parce que les enfants sont beaucoup plus malléables. Plus ils grandissent, plus ils sont vieux, plus ça devient difficile, il me semble. Donc je trouve ça bien dans l'absolu, mais quand même très difficile en réalité. Et ce qui se fait à Strasbourg me paraît plus proche de la réalité qu'on a à Lyon, en tout cas, avec cette intégration avec des objectifs très clairs, très précis, et petit à petit, même si, effectivement, d'après ce que vous disiez, c'est pas bon pour le stress des élèves, mais ça me paraît quand même plus adapté à notre réalité.
Alors, j'aimerais... Je vais répondre, et puis on laissera la parole à Pascal après. Simplement... deux choses. Le stress, je ne souhaite pas l'enlever. Ce n'est pas possible de l'enlever. On ne peut pas fabriquer un élève francophone hyper à l'aise en français non plus. Donc, de toute façon, il est très clair qu'un n'importe quel enfant qui va à l'école pour la première fois est stressé, quelle que soit la situation. Pour les enfants nouvellement arrivés en France, c'est bien pire. Et ce stress-là, on ne l'enlèvera pas. Simplement, dans le souci que l'on aurait de l'atténuer, je pense qu'on fait parfois des erreurs. Je vais vous donner un exemple. Dans le département de l'Indre-et-Loire, le dispositif est en immersion, y compris au collège et y compris pour les NSA. Le taux de réussite de ces élèves est très important. Il y a quelques années, l'inspecteur d'académie qui venait d'arriver s'est dit comment ça se fait, il n'y a pas de CLA fermée, de NSA. Donc il a créé une CLA NSA dans un collège sur une structure relativement fermée. Ça a été problématique, pour dire les choses de manière extrêmement diplomatique, et le taux de réussite de ces élèves s'est complètement effondré par rapport à ceux qui continuaient à être dans des NSA en collaboration avec les classes ordinaires. Il faut savoir aussi que sur ce dispositif, il y a donc 13 enseignants qui sont en clean et en CLA, et il y a 3 NSA. Les enseignants de ces CLA NSA sont aussi enseignants de lettres modernes. Donc ils ne sont qu'à mi-temps sur l'éclat ou l'éclat NSA. Donc ça veut dire que de toute façon, le reste du temps, les enfants sont dans les classes ordinaires. Alors, je ne dis pas que tous les enfants réussissent de manière excellente ou... Non. Disons que tous les enfants, en tout cas la grande majorité, rentrent dans la norme scolaire. Donc certains vont très bien y réussir, d'autres y réussiront moins bien. Mais il ne faut pas penser que ce que je dis là, c'est uniquement... un fantasme abstrait de chercheur. C'est aussi l'expérience de plus de 20 ans de type d'enseignement, notamment au niveau du collège, sur ce mode-là. Pour aller un petit peu plus loin, mais je comprends, hein, je défends mon bout de gras, mais je comprends très bien que ça soit compliqué. Quand j'étais venue à la demande du centre Michel Delay il y a quelques années, une collègue m'avait dit « Écoutez, je ne comprends pas votre point de vue. Hein? » Et elle m'avait dit « Nous, on a une CLA fermée. Et malgré ça, nous avons un pourcentage de 10% de réussite. Comment pouvez-vous me dire qu'en leur donnant encore moins de français, ils vont réussir mieux ?» Et je lui ai répondu « Est-ce que vous vous rendez compte que vous défendez un système où seulement 10% des élèves de votre classe réussissent dans le cursus ordinaire ? Je pense que la difficulté que l'on a, c'est que quand on est dans une construction à la fois institutionnelle, relationnelle, avec aussi des qualités de relation avec les gens, hein, un vrai investissement, une vraie implication des personnes, c'est compliqué de tout faire exploser. Donc je pense que sur la représentation si on y va doucement, ça va mieux marcher, c'est pas sûr. Je vais pas aller plus loin, mais c'est pas sûr. Et je dis, ailleurs, d'autres, pas moi, mettent en place un autre fonctionnement qui fonctionne. Mais je sais bien que c'est contextualisé et que on va pas exporter des recettes, hein, ce que je disais tout à l'heure ou ce que vous disiez. C'est pas parce qu'on va faire un dispositif hyper inclusif que on va former. Et si on forme pas les gens et si on leur dit pas le prof d'art plastique, il a à apprendre cet élève comme il a à apprendre les autres et il doit faire avec son altérité, on générera aussi de l'exclusion, du stress. Voilà, je dis pas que le dispositif en lui-même est porteur de la réussite de l'enfant. Donc je préfère un dispositif probablement très accompagnant et moins inclusif, mais avec une implication des personnes, que strictement inclusif dans la structure et avec des gens qui n'ont rien à faire. Hein, ça, c'est évidemment, ça n'a effectivement pas de comparaison possible. S'il y avait un idéal, je ne sais pas s'il y en a un, ce serait un dispositif inclusif avec une mobilisation, une implication des personnes.
Formation.
Et la formation. Il y a des lieux où ça se fait et où ça marche bien.
Oui, je voulais juste dire deux mots qui reprend des réflexions qui se disent par ici, puis que je remercie la collègue qui a pris la parole avant de l'avoir soulevée. On est en train de dire beaucoup de choses sur ce que devraient faire les enseignants ordinaires avec les enfants qu'ils accueillent. Moi, j'aimerais aussi qu'on rentre un petit peu dans le « à quelles conditions ». Voilà, parce que la prescription de ce qu'il faut faire, accueillir des enfants en situation de handicap, accueillir des enfants primo-scolarisés ou ne parlant pas encore le français, il y a beaucoup de prescriptions qu'on attribue aux enseignants des classes ordinaires, mais à quelles conditions peuvent-ils les mettre en œuvre ? Et à quelles conditions aussi de reconnaissance de leur travail ? Voilà.
Là, je crois que vous touchez vraiment au cœur des choses. Hein. C'est-à-dire que la mission de service public, c'est d'accueillir tous les enfants qui sont sur leur territoire quand ils peuvent être accueillis. Hein. Ça, c'est la mission. Maintenant, accompagner les acteurs, hein, qu'ils soient enseignants, chefs d'établissement, voire, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est le lien avec la famille, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi avec l'extrascolaire, hein, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement à la scolarité, si on veut aussi déborder du système scolaire. Là, ce sont effectivement les conditions. Alors, la question de la reconnaissance, elle se pose, elle continuera à se poser. Ça, je pense que il ne va pas falloir attendre grand-chose d'autre comme reconnaissance que la gratification du plaisir de faire avancer ses élèves, parce que je crois que c'est un peu compliqué. Alors, Maryse a l'air de dire qu'il y a peut-être d'autres manières aussi de reconnaître le travail, probablement. Hein. Réfléchir aux conditions, et notamment pour moi, une condition importante, c'est la formation. Hein. C'est la formation, c'est l'échange de pratiques, c'est tout ce qui peut être accompagner les personnes à se sentir moins démunies. Parce que très souvent, alors, on a tous rencontré des enseignants mal embouchés et qui, de toute façon, ça les intéresse plus, ça les a peut-être intéressés, mais ça les intéresse plus, ils sont usés, ils en ont marre, ils n'ont plus envie de s'impliquer. Mais la grande majorité des gens qu'on rencontre dans l'enseignement continuent à avoir envie de faire bien leur métier. Mais souvent, ils ne savent pas comment faire. Ou leurs représentations sont telles qu'entre ce qu'ils aimeraient bien faire et puis ce qui est possible, c'est compliqué et c'est en désaccord. Hein. Donc ça, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je pense qu'il faut penser la formation à la fois sur des éléments qui sont vraiment disciplinaires autour de la didactique, mais aussi sur des éléments qui sont réflexifs, des échanges d'analyse de pratique, des réflexions sur ces représentations de ce que c'est qu'un bon enseignant, de ce que c'est que l'inclusion. On voit bien que l'inclusion, ça ne va pas de soi pour tout le monde. On trouve que, voilà, dans les échanges qu'on a là, l'inclusion, ça ne va pas de soi pour tout le monde, l'exclusion non plus. Enfin bon, on a des points de vue divergents, différents, qui n'ont pas à s'exclure, mais qui ont à se travailler ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un qui me dit, comme on le dit là, hein, l'inclusion, c'est bien joli, mais enfin moi, je trouve qu'effectivement, ça paraît idéal, mais je ne vois pas comment le mettre en place. je ne rejette pas l'idée, je dis... Oh. Oui, l'inclusion totale. Oui, oui. Enfin, ça dépend ce qu'on dit inclusion totale. Parce que ce que moi, quand je dis inclusion totale, pour des nouveaux arrivants, c'est-à-dire des enfants qui sont en classe ordinaire la majorité du temps et qui sont accompagnés sur l'appropriation de la langue, langue de SCO, langue français comme langue seconde, voire autre langue, hein, travaille aussi sur les langues de la famille, les langues des élèves, ça oui. Quand je dis inclusion totale, c'est pas on les met dans les classes et on s'en occupe plus. Et ils apprennent à lire dans le bain linguistique. Pas du tout. C'est ils sont dans une classe ordinaire, leur classe, c'est leur classe, et on les accompagne avec un projet pédagogique adapté sur la langue orale, mais aussi au niveau du collège sur des prérequis, par exemple en mathématiques, qu'ils n'auraient pas pour les NSA. Voire en anglais, parce qu'ils n'en ont jamais fait. Donc c'est un dispositif d'accueil, mais qui ne met pas en premier lieu l'inscription pédagogique dans la CLA ou dans la CLA NSA, mais dans la classe ordinaire. Par contre, ça ne veut pas dire « débrouillez-vous » du tout. Hein? Alors là, si effectivement c'était ça que j'ai laissé penser... Non. Alors... L'inclusion, elle est inclusion ou elle n'est pas. Hein? Donc, l'inclusion partielle, c'est déjà aller vers. Hein? Donc, l'inclusion, c'est elle est inclue, sauf que dans la manière dont les enfants sont inclus, il y a une prise en compte de la spécificité de leur situation. Donc, ça veut dire, leur classe, c'est la 4e B ou le CM2 de Monsieur Machin, et... par rapport à la langue, par rapport à un certain nombre de prérequis qu'ils n'auraient pas, notamment des prérequis parce qu'ils n'auraient pas été scolarisés suffisamment, pas dans les mêmes conditions, là, il y a un accompagnement spécifique. Mais ce n'est pas... ils sont inscrits dans la CLA, par exemple, et puis ils vont un petit peu en art plastique, ils vont un petit peu en musique, ils vont un petit peu en sport... Et puis peut-être qu'à un moment, ils feront un petit peu de gym, et puis un petit peu de SVT, ou un petit peu... C'est pas ça. Hein? Donc Pascal, vous vouliez répondre.
Oui, alors moi, je voulais rajouter deux choses. La première, c'est que pour prendre en compte les classes fermées, où ça ne bouge pas, où d'un côté, on a l'équipe de la classe d'accueil et l'équipe des classes ordinaires, où il n'y a vraiment aucune passerelle. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est les stages de découverte. Donc, les élèves vont 15 jours dans une classe ordinaire. Et là où ça a pêché, c'était par rapport à l'accueil des profs de la classe ordinaire. Et donc, on a créé, en fait, un cahier de découverte dans lequel l'élève avait des tâches très précises et une évaluation ensuite par les profs de la classe ordinaire. Donc, chacun se trouve finalement impliqué dans le travail, dans le parcours, et en même temps c'est quelque chose qui ne pèse pas trop lourd aux profs de classe ordinaire. Donc c'est un cahier qui fait 80 pages que l'on va mettre là justement cette semaine sur le site du CASNAV et sur Créteil. Voilà. Et ce qui est important, c'est que vraiment les élèves vont analyser aussi, et c'est aussi pour créer un feedback aussi à la fois pour l'élève, à la fois pour les profs. Donc ça a fait évaluer les choses. Une autre chose que je voulais signaler aussi, c'est qu'en ce moment, avec le CERN, on travaille sur 4 livrets numériques pour les élèves nouvellement arrivés, dans l'esprit du parcours scolaire. Le premier livret numérique, ça va être élève dans un collège en France. Donc c'est un portfolio d'auto-évaluation où l'élève va non seulement découvrir le système scolaire, le règlement intérieur, les élections de délégués, etc. pour le premier livret. Le second livret, c'est la découverte du français, à la fois français comme langue, mais aussi français comme discipline. Ce livret-là, il est composé d'une double page plutôt fleuve, on va dire, langue de communication, suivie ensuite d'une double page de littérature. Donc en fait, comment transférer l'un à l'autre pour que l'élève, dès le début de l'année, puisse travailler en fait le français littéraire. Par exemple, vous avez la première leçon, c'est tout simplement bienvenue au collège, ce qu'on fait tous la première semaine. Donc il y a une double page d'évaluation là-dessus qui est suivie par une double page sur un extrait de Madame Bovary, l'arrivée du nouveau. Donc en fait, on fait le transfert, voilà, pour vous donner un exemple. Ça, c'est le deuxième livret. Le troisième livret, c'est la découverte des disciplines. Donc la première partie de ce livret, ce sont tous les transversaux pluridisciplinaires, consignes, lexiques, etc. Et la deuxième partie, c'est à chaque fois une double page sur la découverte d'une discipline. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi qu'un des problèmes des élèves nouvellement arrivés, c'est l'épistémologie des disciplines. Et en fait, certains élèves ne se retrouvent pas du tout, entre autres en géographie, qui pour eux est plutôt de la sociologie. Ça, c'est pour les élèves venant des pays de l'Est. En histoire, parce qu'en histoire, notre programme commence à l'histoire antique, alors que dans d'autres pays, c'est un programme d'histoire qui n'a que 30 ans. Par exemple, hein. Pareil pour d'autres matières. Le troisième livret, c'est un livret sur le parcours, de conception du projet personnel d'études, à la fois général ou courte. Donc l'élève là va découvrir le système scolaire français par rapport aux différentes orientations possibles. Ensuite, va avoir un feedback sur lui-même pour pouvoir travailler sa filière et enfin va découvrir les différentes filières avec les diplômes attendus et puis les études qui vont avec. Donc c'est vraiment quatre livrets numériques auto-évaluatifs sur lesquels l'élève travaille. Voilà.
Bonjour, moi je voulais revenir sur cette histoire de socialisation et d'inclusion en classe ordinaire. Juste pour rendre compte de mon expérience, je suis dans un collège à Villeurbanne et quand je suis arrivée dans ce collège, c'était un ancien système fermé, donc totalement sans inclusion. Tous les enseignants voyaient les ENAF comme des extraterrestres qui n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit. Et la première année, ça a été vraiment une catastrophe pour moi d'arriver justement à leur demander. La deuxième année, en m'inspirant de collègues qui font ça dans d'autres académies, j'ajoute que les 15 premiers jours ont été terribles pour moi puisqu'il s'agissait de faire cours à tous les élèves en même temps, tout en créant les emplois du temps, les inclusions, etc. Donc ça a été terrible. Et la deuxième année, j'ai donc dit à mon chef d'établissement, les élèves vont faire leur rentrée en classe ordinaire et donc ils sont, excusez-moi l'expression, mais jetés en classe ordinaire à leur arrivée. Ça a eu l'effet pas si difficile pour les élèves parce que je vais les voir très vite et je leur explique très vite qu'ils vont être pris en charge dans 10 jours, etc. Mais l'effet magique sur tous les enseignants, de les rendre enseignants de ces élèves-là. Les élèves ont un prof principal, sont socialisés, ont une classe, ils ont les manuels, ils découvrent le collège avec tous les autres. Ils ont un peu peur au début, mais en fait, ils me voient très vite. Dès le deuxième jour, je leur explique, même quand ils parlent pas un mot, même quand ils lisent pas. Et en fait, maintenant, c'est les enseignants de classe ordinaire qui viennent me demander de les aider à s'occuper de ces élèves-là. Certains les négligent encore un peu, c'est certain. Mais globalement, tout mon collège qui refusait complètement l'intégration de ces ENAF est devenu un collège qui accueille globalement. C'est-à-dire que maintenant, quelle que soit la classe dans laquelle je les intègre, ça fonctionne. Et les enseignants se reconnaissent comme enseignants aussi de ces enfants-là. Voilà. Donc je tenais à le dire parce que ça me fait pas du tout peur l'inclusion. Et les enfants, je suis d'accord hein, vraiment pour l'accompagnement, etc. Quand ils arrivent en cours d'année, c'est encore différent. J'essaye de préparer quand même l'arrivée dans la classe. Mais justement, je travaille plutôt avec les enfants de la classe ordinaire. C'est-à-dire, je crée un effet d'attente sur cet enfant-là qui a des difficultés, enfin des particularités. Et l'enfant se fait repérer dans la cour, on lui court après pour savoir qui il est. Et c'est ça qui est important, en fait. Et même quand il lit pas, même quand il parle pas, enfin moi, ça me paraît vraiment fondamental. L'immersion, enfin, voir les autres, voir, apprendre à lever la main, etc. Et après, toutes les règles de classe, de toute façon, on les fait aussi dans notre groupe. Voilà. Donc bien sûr, après j'ai fait ça de façon assez violente parce que j'ai mes petits moyens et trop d'élèves, mais ça fonctionne bien et vraiment bien avec les classes ordinaires. Voilà, je tenais à le dire.
Oui, juste pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'épistémologie, à propos de l'épistémologie des disciplines, il faut aussi savoir que en France, nous sommes l'un des rares pays européens et dans le monde à enseigner par exemple la géométrie à l'école primaire. Donc, quid du transfert, justement, des connaissances par rapport à cela. Autre chose, mais je n'ai pas de question, c'est juste être aussi vigilant parce que au niveau de la participation des ENAF à toutes les activités, parce que souvent on nous dit « Ah, on ne l'a pas emmené au théâtre, on ne l'a pas emmené à telle ou telle sortie parce qu'il était chez toi dans ton cours ». Non, il faudra dire aux collègues qu'ils peuvent venir le chercher, qu'on peut s'appuyer justement sur cette préparation pour travailler le français avec eux ou autre chose. Voilà, merci.
Alors, sur le transfert des acquis antérieurs, c'est vrai qu'on se rend très bien compte, probablement que la plupart d'entre vous avaient fait passer les évaluations, notamment en mathématiques. On sait très bien que les programmes scolaires et programmes disciplinaires scolaires sont extrêmement différents d'un endroit à l'autre. Le gros problème, je pense, qui se pose au niveau du collège, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord, c'est que les enseignants, alors je le dis de manière un petit peu directe, mais les enseignants de collège sont formés à leur discipline et à la didactique de leur discipline, notamment au niveau du collège. Et ils ne sont pas formés aux apprentissages premiers et ils ne sont pas formés à la remédiation. Probablement que c'est, enfin, c'est pas le cas en tout cas des enseignants de premier degré qui sont formés à l'ensemble des disciplines et à l'ensemble des didactiques. Donc c'est vrai qu'un maître de CM2 qui a en maths un élève qui n'a pas fait de géométrie, il va savoir quand même lui apporter les premières bases de la géométrie. Pour un collègue de maths qui en troisième va faire beaucoup de géométrie, qui est confronté dans sa classe à un élève qui ne parle pas le français, qui n'a jamais fait de géométrie avant, ça va peut-être être compliqué pour lui de lui donner les bases de la géométrie qu'on a pu voir à l'école élémentaire. Donc ça, c'est un...
Excusez-moi, oui, c'est au niveau aussi, au niveau de l'information, les collègues ne le savent pas. C'est-à-dire que pour eux, il y a déjà des prérequis. Le gamin, il arrive, il a déjà fait de la géométrie, y compris en Albanie, par exemple.
Oui, oui. Alors là, c'est à la fois un problème d'information et de formation. On ne sait pas toujours les parcours des élèves. Et on sait bien aussi que ce n'est pas parce qu'on leur a enseigné qu'ils auront appris. Enfin, on le sait tous, hein. En plus, bon, certains ont été effectivement scolarisés, on l'entendait hier, une journée, deux jours par semaine, dans des conditions où les apprentissages ne se sont pas faits en dehors des programmes. Donc là, évidemment, ça soulève la question de l'évaluation des acquis antérieurs, hein, et notamment des évaluations de positionnement dont on parlait hier. Moi, je leur vois une vraie fonction, c'est-à-dire celle de faire le projet pédagogique, c'est-à-dire de mesurer là où en est l'enfant de ses acquis antérieurs, y compris dans d'autres disciplines que le français, hein, à la fois dans la maîtrise de sa langue ou de ses langues, et aussi en mathématiques et aussi peut-être dans d'autres disciplines, ça sert à ça, à construire le projet pédagogique. Mais c'est rarement utilisé et les enseignants de classe ne savent pas faire. Pour beaucoup, ne savent pas faire. Donc là, il faut les accompagner et les aider. Parce que même si, par exemple, on a dit « bah oui, mais bon, il est allé jusqu'au CM2 et dans son pays, on a fait la géométrie », ça ne veut pas dire que lui, spécifiquement, il sait faire. Donc, il va falloir avoir une évaluation assez fine de ce sur quoi on a besoin de l'aider.
Dernière intervention.
Voilà. Là, moi, je voulais intervenir aussi un petit peu. Donc, je travaille dans la Loire et notamment sur Saint-Étienne. Et nous, les élèves sont intégrés dans les classes sans souci. Et on est en train de faire le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va créer des sas d'accueil, notamment pour les NSA, et qui nous posent énormément de problèmes. Ce sont des élèves qui n'ont pas de domicile, donc qui n'ont pas d'école de rattachement. Il faut se battre tous les jours pour trouver un établissement qui accepte de les prendre. Ce sont des élèves qui vivent dans des conditions d'hygiène dramatiques, donc ils sont exclus des cours parce que les profs ne veulent plus de ces élèves qui se sentent mauvais, entre guillemets. Et bon, nous, on a notre problème. Ces élèves, on va être obligés de les ressortir de classe et de les mettre dans un sas d'accueil.
Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et là, je dirais que pour le coup, je n'ai pas de préconisation parce que ça dépasse... Non pas que ça ne concerne pas l'éducation nationale. Évidemment que ça concerne l'éducation nationale et les enseignants, mais ça dépasse aussi... on touche les limites de l'action possible. Hein. C'est-à-dire quand il y a vraiment des problématiques de santé, de précarité extrême et d'insécurité pour ces enfants, hein, j'entends, hein, pas pour les collègues ou les autres élèves de l'école, hein, mais d'insécurité pour eux, c'est un vrai problème. Et là, on a du mal parce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est là où les partenariats avec les associations, la PMI, enfin tout ça, doivent se mettre en œuvre. Et que là, pour le coup, on ne peut pas résoudre le problème de manière interne à la structure institutionnelle éducation nationale. Donc là, et c'est hyper contextuel. C'est-à-dire que si ce sont des Roms dans des camps, enfin des enfants dans des camps illicites chassés d'un endroit à l'autre, c'est pas la même chose que si c'est dans un autre contexte. Donc là, pour le coup, c'est hyper contextualisé et on ne peut pas préconiser quelque chose de qui soit une recette duplicable ailleurs. Donc chacun cherche à bidouiller pour le coup la solution la moins mauvaise.
Alors quand même, pardonnez-moi, mais institutionnellement, ce sont bien les CASNAV qui sont chargés de coordonner l'action partenariale, y compris sur ces situations de crise concernant le volet de SCO. Hein.
Je fais très très vite. Non, c'était juste un témoignage. Moi, je travaille dans une académie où il n'y a presque plus de dispositifs. Au fur et à mesure, ils partent pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là, mais si ça vous intéresse... Il n'y a plus du tout, pratiquement plus de clean et de CLA, pratiquement plus, j'ai travaillé sur l'académie de Caen. Voilà. Et par contre, ceux qui existent, qui survivent, au moins en collège, sont plutôt des postes, plutôt que des classes. C'est-à-dire que dans les collèges, sur un des collèges, il y a notamment 5 personnes qui se sont réparties la prise en charge des élèves. Ce qui fait qu'effectivement, ça dépersonnalise complètement le professeur qui est spécialiste. Du coup, ça oblige un travail en équipe et ça met une dynamique sur l'établissement. Donc, c'est vraiment un établissement d'accueil et c'est pas un poste clean. Dans le premier degré, ce sont exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils se répartissent des secteurs et ils travaillent essentiellement en co-intervention dans la classe. Et ça, je pense qu'il faut, ce serait bien qu'on puisse filer cette piste-là en co-intervention dans la classe et puis au moins en présence sur les établissements, quelquefois de façon très lourde, quelquefois et au fur et à mesure de plus en plus, voilà, en laissant la place aux autres. Mais effectivement, on a quand même de moins en moins, il y a toujours cette disparité entre ceux qui s'en occupent, ceux qui s'en occupent pas, mais quand même, ça permet de dépersonnaliser les choses. Voilà, c'était un témoignage.
Oui, je voulais juste intervenir sur deux points. Pour rebondir sur l'intervention précédente, je crois que la discussion de savoir dispositif fermé, dispositif ouvert, ça n'a plus lieu d'être, puisque les circulaires imposent des dispositifs ouverts et l'inclusion en classe ordinaire. Donc je pense que c'est une discussion qui doit être close. Ça, c'est le premier point. Et que, en fonction des nouvelles circulaires, il faut s'adapter et trouver les moyens, les meilleurs, d'accompagner les élèves. Mais dans le cadre de l'inclusion en classe ordinaire, donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible. Deuxième point, justement, je vais dire l'inverse maintenant, hein, pour les NSA. Et nous sommes, nous, dans l'Académie de Grenoble, sur certains territoires, hein, pas sur tous, devant un problème d'effectifs qui fait que l'inclusion des NSA en classe ordinaire s'avère extrêmement difficile. Donc nous avons, en accord avec le recteur et le secrétaire général, nous avons créé sur certains territoires particulièrement sensibles et touchés par cette question des dispositifs fermés, mais dans une sorte de ce qu'on a appelé une année zéro, c'est-à-dire un dispositif d'alphabétisation assez rapide qui permette ensuite à l'élève de rentrer dans une UPE2A ordinaire, c'est-à-dire que ce module, disons, d'alphabétisation, il est hors cursus, d'une certaine manière. C'est un module de secours. Donc, c'est pas facile à comprendre de la part des services, hein, qui, eux, on a encore des DSDEN qui calculent, il est arrivé le 3 mai de l'année, donc l'année prochaine, le 3 mai de l'année prochaine, il ira en classe ordinaire. On a encore des gens qui pensent comme ça, hein. Donc, ça n'est pas facile, mais on essaie de faire on est tout à fait prêt à admettre que c'est pas une solution qui nous satisfait. Hein, on préfère beaucoup l'inclusion, etc. Et dans d'autres territoires, on a une inclusion des élèves en dispositif et en classe ordinaire. Mais vu le nombre, c'était la seule solution possible qui nous est apparue cet automne. On va voir ce que ça donne, hein, en termes de pédagogique, en termes de d'inclusion des élèves ensuite, etc., en termes de parcours de ces élèves, hein, on va l'étudier de manière très attentive, mais pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres solutions, parce que de toute façon on a des groupes qui sont très homogènes de ce point de vue là c'est-à-dire on a sur notre plateforme d'orientation on a à peu près 30 élèves NSA, et donc qui nécessitent justement une approche peut-être un petit peu différente. Bon, enfin, je vous dis, on est dans une sorte d'expérimentation, hein, on n'est pas très satisfait de la solution.
Oui, moi je travaille donc dans l'académie de Cazeneuve de Lille. Donc sur le premier sujet, donc l'inclusion des élèves, dans l'académie de Lille, tous les élèves sont inscrits en classe ordinaire. Alors, il y a quand même la grosse difficulté, c'est quand même l'aménagement des emplois du temps, puisque les élèves, il est difficile et très difficile de faire en sorte que les élèves suivent notamment une matière ou deux matières, les mathématiques et l'anglais dans la totalité. Donc ça, c'est quand même une grosse difficulté sur laquelle on essaie de réfléchir, et on se demande justement si il serait pas plus intéressant de leur donner un cours intensif au départ et ensuite de les mettre en classe ordinaire de manière beaucoup plus importante pour éviter qu'ils sortent de la classe ordinaire. Et donc nous, on a aussi été confrontés justement au fait que beaucoup d'élèves maintenant arrivent sur l'Académie de Lille NSA, notamment dans des situations extrêmement précaires. Et du coup, on a dû refermer des dispositifs de la même façon. Donc, on a créé des dispositifs NSA qui ne sont pas satisfaisants, finalement, parce qu'au bout de quelques années, on s'aperçoit que les élèves, au bout de 2 ans, ils ne sont toujours pas capables de rentrer dans une classe ordinaire. Et après une année, ce qui se passe, c'est que leur parcours scolaire dans la CLA NSA ne fait pas sens, en fait. Ils sont toujours entre eux. Et donc, à ce constat, on a décidé de mettre en place un projet financé par le FSE, qui a débuté au mois de septembre, pour essayer de faire en sorte que ces élèves aient un vrai parcours, un parcours qui ait du sens, c'est-à-dire de travailler certaines inclusions avec les enseignants, donc avec des moyens supplémentaires sur 2 collèges. Donc, on travaille sur 40 élèves qui sont scolarisés depuis une année, 2 années ou 3 années, mais pour essayer de faire en sorte qu'ils aient quelque chose qui ait du sens. Donc on va même essayer de travailler avec les professeurs de lettres, par exemple sur la thématique, par exemple sur le théâtre, pour que à ce moment-là on puisse inclure sur une séquence de 15 jours ou 3 semaines ces élèves dans un cours de français. Voilà. Et on travaille beaucoup avec le professeur de technologie. Et ce qu'on fait aussi, c'est des fils à l'intérieur des 2 collèges pour essayer de sensibiliser les enseignants à la problématique de ces enfants très particuliers.
Alors, j'entends bien, hein, que dans certaines situations qui paraissent extrêmes, on soit obligé de trouver des solutions et qu'on essaye ces solutions. Le problème, c'est que mon inquiétude, hein, si ma compréhension est totale sur le fait de chercher des solutions voilà, qui, dans le contexte, permettent de répondre, mon inquiétude, c'est qu'au bout d'un moment, on ne perçoive plus les effets pervers du système qu'on met en place et que ce qui paraissait être adapté à l'extrême particularité du profil tous les profils deviennent hyper particuliers et que du coup on en vienne à réenvisager des modèles sur ce qu'on se met à croire, je dirais là pour le coup, non pas sur ce qu'on expérimente, parce que là une expérimentation, on va voir, ça marche, ça marche pas, on essaye de trouver une autre solution, on bidouille, on bricole, ça me gêne pas. Là où ça me gêne, c'est quand au bout d'un moment, on dit oui, mais bon, de toute façon, comme eux, ils sont hyper spéciaux, on fait un truc hyper spécial qui, du coup, justifie qu'on revienne sur des structures qui, de fait, ne devraient plus exister. Guy le disait tout à l'heure. La discussion qu'on a là ne devrait plus exister, en tout cas à la rentrée prochaine. Ça ne devrait plus exister. Or, on sait très bien que ça va continuer à exister.
Moi, je voulais faire une intervention là, depuis un petit moment. Nous, on a commencé à aller regarder, finalement, les ANA dans les lycées internationaux pour voir comment ça se passait. Parce qu'après tout, ce sont aussi des élèves qui vont être scolarisés sur le territoire français. Et comment ça se passe ? Eh bien, que ce soit les parents ou les enseignants des lycées internationaux, ils ne se posent pas 36 questions. La continuité des apprentissages. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans l'apprentissage des élèves en mathématiques, en physique, pour des enfants de chercheurs ou des enfants de diplomates ou des enfants. Donc, c'est la continuité des apprentissages. Donc, dans les lycées internationaux, on continue à apprendre. On continue ces programmes, même si on s'adapte à des programmes un peu différents. Et puis, parallèlement, on apprend le français. Et puis, à un moment donné, le français s'intègre dans la suite des apprentissages. C'est intéressant de regarder l'efficacité de ce côté-là. Hein ? On ne se pose pas les questions. 1. On va chercher où le scolariser. 2. On va d'abord attendre qu'il apprenne le français. Et 3. Il va falloir qu'il retourne dans des apprentissages qu'il ne connaissait pas forcément avant. Donc le continuum ici est intéressant pour regarder. On n'est pas des lycées internationaux, mais ça peut interpeller sur nos pratiques.
Je crois que sur cette question-là, je trouve qu'effectivement, on a tout intérêt, tu as raison Marie-Odile, à réfléchir sur toutes les modes, sur tous les modes d'accueil des nouveaux arrivants, quel que soit leur niveau. Souvent, ce qui pose problème, c'est quand la scolarité antérieure a été chaotique et que ça se mêle à des problématiques d'appropriation du français. Mais ce que tu dis, c'est aussi une problématique importante, parce que moi, j'ai rencontré des élèves en difficulté alors qu'ils avaient fait une scolarité antérieure tout à fait réussie dans un pays, leur pays d'origine ou un des pays dans lesquels ils avaient travaillé. Donc, c'est pas parce qu'ils sont, par exemple, en cursus ordinaire depuis très longtemps et qu'ils n'ont pas de problème d'apprentissage jusque-là qu'ils vont pas forcément, ne pas en avoir en France. Mais à l'inverse, je pense que c'est vrai que quant à la difficulté d'appropriation de la langue se mêle soit la grande difficulté scolaire, soit le manque ou les lacunes de scolarité antérieure, ça pose d'autres problèmes. Mais on a tendance à mon avis, exagérer ces dimensions-là, parce que Malou le disait hier, les progrès d'un enfant qui a été peu scolarisé dans les meilleures conditions, alors après, il faut savoir ce que c'est que les meilleures conditions, hein, mais peuvent être exponentiels, c'est-à-dire que ça paraît être encéphalogramme plat pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis quand ça va commencer, ça va monter très très vite. Et on voit des élèves qui, dans un cursus relativement inclusif et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des enseignants qui les accueillent bien, au bout de 24 mois, ils ne sont pas très différent des autres. Voire, il y a des enseignants qui disent « Ah bon, il a été nouvel arrivant, lui ? Ah bon, il a été non francophone ?» Alors, c'est un peu exagéré, parce qu'au bout de 2 ans, on voit encore, hein, notamment dans la question d'appropriation de la langue, des éléments qui ne sont pas encore bien stables et bien solides. Mais en tout cas, sur l'ensemble des apprentissages, je dirais un petit peu plus techniques, pour la plupart, ils se fondent dans le paysage. Ils ne sont pas tous dans l'excellence scolaire, mais ce n'est pas forcément non plus que, même si c'est ce qu'on voudrait viser, ce n'est pas non plus la réalité du public scolaire français en général. Hein, et ils ne sont pas plus, ils sont pas très différents sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'on exagère souvent aussi le poids à long terme de ce manque, ou en tout cas de ces éléments cognitifs qui n'auraient pas eu avant. Moi, ce qui m'ennuie plus, mais je ne sais pas si vous, ça vous pose problème, dans les recherches que j'ai faites auprès des nouveaux arrivants, c'est comment diagnostiquer les raisons d'une difficulté d'apprentissage. C'est très difficile pour un enfant français et francophone d'identifier pourquoi il n'apprend pas, mais pour un enfant allophone, on a beaucoup de mal à savoir pourquoi il n'apprend pas. Enfin, comment, notamment, on pourrait l'aider à mieux apprendre, parce que la question de la langue se pose, qu'on a tendance à attribuer parfois trop rapidement au fait, par exemple, de l'exil, au fait d'une appropriation difficile de la langue, les difficultés scolaires, et que, en termes de formation, les psychologues scolaires, les réseaux d'aide pour le premier degré et souvent les COP pour le second degré ne sont pas formés et notamment n'ont pas réfléchi, pour certains, à l'adaptation des outils, notamment psychométriques, à la situation des ENA et vous disent la bouche en cœur, toute façon celui-ci t'inquiète pas, il est déficient, voilà, parce que même sur les épreuves non verbales, il a tout raté. Or, on sait très bien que les épreuves non verbales, c'est pas culturel et c'est pas verbal. On se demande comment passe la consigne, enfin entre autres, hein, y a plein d'autres éléments, mais enfin, c'est pas une épreuve verbale. Donc, si je te dis qu'il est déficient, c'est qu'il est déficient. J'ouvre juste cette brèche pour parler de la question de la formation et de l'attribution ou du sens de la difficulté scolaire pour ces enfants. Qui pour moi reste, je pense, un obstacle. Alors, je pense que l'inclusion scolaire n'en est plus un, identifier le moment où il a besoin d'un accompagnement spécialisé et non plus d'un accompagnement ordinaire, là, pour moi, c'est vraiment la limite sur laquelle je trouve qu'on est encore très, très mal à l'aise, aussi bien dans les recherches que dans les pratiques.
Voilà, donc pour conclure, et on va se donner un quart d'heure de pause. Deux petites choses par rapport à ça, c'est-à-dire que comme l'a rappelé Guy, c'est l'inclusion qui est la règle, mais sur des situations un peu critiques où on ne sait pas trop faire, où on pense qu'on ne sait pas faire, on réinvente ou on remet en place des SAS, des dispositifs, des choses fermées, en urgence, en pensant que ça va disparaître et que c'est temporaire, etc., avec l'effet structure qui peut apparaître très vite derrière, où finalement l'organisation s'organise comme ça. La deuxième chose que je voulais dire un peu en conclusion aussi, c'est, alors dans le jargon dans lequel je gravite aujourd'hui, on emploie beaucoup le mot d'écosystème. Alors bon, ça veut dire plein de choses. Mais il n'empêche qu'un établissement est un écosystème avec ses acteurs aussi diversifiés qu'ils soient, c'est-à-dire qu'on parlait d'enseignants, mais aussi des autres personnels qui ont toute leur place dans l'accompagnement des élèves dont on parle depuis hier. Et que sur certaines situations, là encore, il s'agit d'élargir cet écosystème au territoire. Alors je sais qu'il y a un groupe de travail à l'IFE sur les questions vives du partenariat, donc je sais que c'est réfléchi. Nous, on l'a réfléchi à notre manière à Lille, justement, l'année dernière, sur des situations un peu critiques, puisque c'était sur la scolarisation et la scolarité des élèves roms sur le territoire lillois, où on avait fait venir et on avait travaillé avec mairie de Lille, l'ASE, les travailleurs sociaux, l'éducation nationale, à tous les niveaux du pilotage et de l'accompagnement. Et ça avait été extrêmement vif, même assez dur. Hein, et que donc c'était une journée qui a eu lieu le 30 mai dernier. Et il en reste encore aujourd'hui des traces à la fois positives, parce que les gens ont appris à manier du vocabulaire et à parler ensemble et à mettre derrière les mots, en s'entendant sur les mots, hein, parce que des fois, oui, partenariat, évidemment, on va travailler ensemble, c'est évident, etc. Puis très vite, quand ça se met en place, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Et donc on avait ouvert à Lille, alors peut-être qu'il faudra revisiter cette question-là sur ce territoire-là, mais sur Saint-Étienne, je pense que c'est aussi cette approche-là qui pourrait être intéressante d'expérimenter, après tout, pourquoi pas. Et donc on avait travaillé vraiment, donc là c'était Fabrice Dume qui intervient aussi ici sur d'autres sujets, mais qui travaille beaucoup sur ces questions de partenariat et qui les questionne en termes de positionnement, de pouvoir, de curseur, justement comme le disait Stéphane pour d'autres choses hier, de curseur sur qui a le pouvoir et qui décide. Et quand on fait un partenariat, c'est ce que disait Philippe Pernou, on accepte de perdre du pouvoir aussi, puisque comme le travail en équipe. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ce matin.